C'est un peu ça. Mais en lui rappelant que nous sommes cinq et que nous n'avons qu'une heure.
Merci pour la parole. Voilà. Merci pour les souhaits de bonne chance. Bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord commencer par vous transmettre les regrets d'Henri Leclerc, qui aurait souhaité être parmi nous et dire quelques mots sur Françoise, avec qui il a partagé beaucoup d'engagement et encore plus peut-être de complicité. Mais Henri a été retenu à Aix, où il plaide. Il a donné la priorité au devoir de la robe. Et donc, il m'a demandé de vous assurer de sa présence, de sa solidarité, et surtout de tous ses souvenirs qu'il a commencé à me confier. Et je l'ai arrêté parce qu'il y en avait trop. Finalement, je le regrette parce que je me retrouve dans une situation délicate, puisque chacun comprend bien que Henri Leclerc avait plus de légitimité que moi à partager un vécu avec Françoise Seligman. En ce qui me concerne, en effet, j'ai rencontré Françoise très, très tôt dans ma vie et je l'ai découverte très, très tard dans la sienne. En fait, nous nous sommes croisés presque sans le savoir, mais c'était à son initiative, en 1972, ce qui rajeunit très peu de gens dans la salle, parce qu'elle avait commis cette proposition un peu irréfléchie sans doute, de me faire écrire dans Après-demain sur la vie démocratique au lycée. J'exerçais à l'époque des responsabilités dans une organisation qui se présentait comme un syndicat lycéen. Et je dois dire que, préparant cette allocution devant vous, je me suis contraint à relire ce fameux sujet sur la démocratie au lycée, sujet passionnant s'il en est, et dont la relecture m'a convaincu que Françoise aimait beaucoup la jeunesse et que sa bienveillance à son égard, si l'on en juge la qualité de l'article qui avait été publié, pouvait être parfois sans limite. Notre deuxième rencontre est intervenue beaucoup plus tard, à peu près une quarantaine d'années, et elle s'est faite dans le cadre des responsabilités que j'assumais à la tête de la Ligue des droits de l'homme, puisque par statutairement, le président de la Ligue des droits de l'homme participe aux activités du conseil d'administration de la Fondation Seligman. J'ai donc découvert à la fois la Fondation, et je m'en félicite, et redécouvert la femme qui, 40 ans auparavant, m'avait accueilli dans le sous-sol de sa maison, Place des Invalides, maison qui, je dois le dire, m'avait plongé dans un état de stupéfaction, parce que moi, j'avais toujours vécu dans une habitation HLM du 20e arrondissement, et l'idée déjà qu'on puisse habiter Place des Invalides était pour moi une expérience de la différenciation sociale et politique tout à fait majeure. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me souvenir de ce qui s'était passé au moment de mes gribouillages lycéens. Bien évidemment, j'avais hérité des souvenirs collectifs de la Ligue. Je savais que j'allais rencontrer une sorte de monument de l'histoire, de la grande histoire, celle de la résistance, avec Claude Bourdet, de la journaliste, avec Albert Camus, de la femme politique, avec Pierre Mendès-France, Pierre Jox. Une histoire qui inspire et qui ne pouvait qu'inspirer le respect et l'humilité. Mais entre la grande histoire et Françoise, il y avait, comment dire, il y avait toute la différence qu'il y a entre le mythe et la réalité. Et la réalité que je découvre quand je la redécouvre, c'est celle d'une femme qui n'est pas du tout grande du passé, mais qui déborde littéralement du présent. Alors, il faut se la représenter, elle est petite, on l'a dit, elle est même un peu légèrement tassée, elle est ridée, et elle est équipée d'un super regard laser, à l'image des héros qui sauvent le monde au moins une fois par semaine. C'était un regard qui vous transperçait, et qui, comme diraient les jeunes, vous calculait. Et elle avait le calcul extrêmement cruel et juste. Parce que Françoise ne sauvait pas le monde. Mais le premier regard qu'elle vous jetait avait pour fonction de savoir si vous pouviez l'aider quand même dans une fonction qui n'était pas loin. Et en gros, elle se demandait en quoi vous alliez pouvoir être utile. Alors elle était particulièrement bien placée pour ce type d'interpellation un peu acerbe, parce que le monde, on l'a dit, elle s'en préoccupait activement depuis l'âge de 22 ans, depuis qu'elle avait intégré un réseau de résistants dont le nom combat lui allait comme un gant. Premier engagement qui résume la majeure partie de la vie de Françoise. Combat, c'est à la fois un acte de résistance, ce sera à la fois un journal, et en ce qui la concerne, franchement, c'est un programme. Yvette Roudy l'a signalé, c'est dans le cadre de ce programme de combat permanent qu'elle rencontre la LDH en 1949 autour de l'affaire des enfants Finali, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais il faut noter que, sans doute, peut-être, ce qui la mobilise de façon aussi importante à ce moment-là, c'est la rencontre entre la défense de droit qui lui semble, je ne vais pas dire universel, parce que vous savez, les présidents de la Ligue des droits de l'homme, ils disent toujours les droits universels. Non, des droits qui s'enracinent dans l'anthropologie, dans ce qu'il y a de plus profond peut-être, pour exprimer l'humanité et le destin de deux enfants. Les enfants dans cette affaire, à mon sens, sont totalement déclencheurs de ce qui fait conscience chez elle. Parce que ses enfants, ils sont à l'image des enfants qu'elle a contribué à sauver, à qui elle a permis de grandir. Ils sont aussi à l'image des enfants à qui elle s'adressera plus tard avec sa fondation. Mais la rencontre avec la Ligue n'est pas sentimentale, elle n'est pas non plus monomaniaque. Ne faisons pas de Françoise une défenseur des enfants. C'était plutôt une défenseur de l'humanité dans tous ses âges, dans toutes ses composantes. Et son adhésion est un acte réfléchi, un acte pensé, et qu'elle assume en militante des droits universels, ça y est, je l'ai dit, et indivisibles. Dans ses mémoires, elle écrit « Nous devons adhérer à la Ligue des droits de l'homme ». Le « nous » est remarquable. Elle parle au pluriel. Elle n'en fait pas du tout une affaire personnelle. « Nous devons adhérer à la Ligue des droits de l'homme. Ce n'est pas un parti politique. » Et là, il faut s'arrêter, parce que est-ce que sous sa plume, est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est une restriction? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un pari qui est fait sur une sorte de formation qui dépasserait les clivages politiques pour défendre les valeurs qui sont beaucoup plus rassembleuses qu'un simple programme de gestion de la République? Question. Réponse. C'est une organisation qui défend les idées pour lesquelles nous sommes battus pendant l'occupation. Sincèrement, au lendemain de l'expulsion de la LDH de son local par le maire Front National d'Hénin Beaumont, ce rappel du bien fondé de la défense des valeurs de la résistance et que cristallise la devise républicaine résonne comme un rappel salutaire. Nous pouvons la remercier de l'avoir écrit et nous pouvons le relire chaque jour. Car le monde, chaque jour, reste à sauver et dans ce combat, aujourd'hui, Françoise nous manque, cruellement. N'étant pas femme à s'investir à moitié, elle devient rapidement la présidente de la section de Paris 7, dont elle restera adhérente jusqu'en 2013. Puis elle est élue au comité central de la LDH en 1954. Elle devient l'une de ses vice-présidentes. Et elle ne quittera le comité central que touchée par la limite d'âge qui existait alors au comité central. Elle sera alors élue présidente d'honneur de la LDH sans avoir été présidente, ce qui est une démarche tout à fait singulière dont seul, je crois, Verdier aura bénéficié avec elle. Et cela dit, je crois, l'estime et le respect dont elle était entourée et dont elle restera entourée jusqu'à la fin au sein de la Ligue. Son engagement dans cette association fut d'une pièce. Elle s'implique dans les combats des années 50, elle va défendre l'honneur attaqué de Georges Guingouin. Elle s'implique pour sauver Ethel et Julius Rosenberg, militant communiste américain, victime du McCarthyisme. Et on peut supposer que pour elle, la Ligue fonctionne un peu comme une famille. Une famille, vous savez, c'est cet environnement dont on a hérité, qui ne se discute pas, mais dont on doit avouer parfois qu'il vous agace ou qu'il vous fatigue un peu. Voilà, les familles, on aimerait parfois en faire un peu l'économie. Il faut ajouter que Françoise est, si j'en crois ce qu'on a pu m'en dire et les intuitions que les rencontres que j'ai eues avec elle n'ont fait que conforter, Françoise est, comment dire, une démocrate à forte personnalité. Voilà. Et comme la Ligue en concentre un certain nombre de fortes personnalités, les débats auxquels elle participe produisent parfois beaucoup d'étincelles, ce qui est souvent le prix à payer pour que la lumière jaillisse. Et pour les faire jaillir, Françoise, qui est une militante politique au service du collectif, c'est combiner la volonté de ses convictions et l'écoute des autres. Bon, il faut avouer que parfois, elle a une certaine tendance à faire prévaloir la première sur la seconde, mais c'est la caractéristique des fortes personnalités. Ces étincelles témoignent en tout cas de façon concentrée d'une sorte de point de rencontre ou de décalque assez singulier, voire troublant, qui s'opère entre elle, sa personnalité, et ce qu'est la Ligue, l'histoire de la Ligue, avec des enjeux qui sont loin d'être consensuels. Françoise est vigilante dans la défense des droits des femmes, elle est sans concession dans la lutte contre les guerres coloniales, particulièrement contre la guerre d'Algérie, et elle s'affirme de façon incessante comme une militante de la pédagogie. Elle incarne la Ligue. Ses qualités, ses combats sont exactement ceux de l'association à laquelle elle a adhéré. Et cette vocation pédagogique, qui lui est très singulière dans la Ligue, qui parfois manque un peu de pédagogie, elle va la déployer à double titre. D'abord comme journaliste. Chez elle, le journalisme est un acte de foi laïque, cela va sans dire la concernant. Et le lancement en 1957 de sa revue de documentation et de formation, dont Pierre a parlé fort justement, en témoigne. Ça va durer 56 ans. 56 ans de parution pour jalonner la réflexion autour des droits, refléter avec intelligence l'esprit de résistance, ses engagements féministes, anticolonialistes, de deux fondatrices finalement, Françoise Seligman et la Ligue des droits de l'homme. Cette activité de journaliste va l'accompagner jusqu'au bout de sa vie et elle ira jusqu'à épouser les formes du blog parce que c'était une journaliste désinhibée qui savait que ce qui importait, beaucoup plus que les formes, c'était le fond. Françoise était une travailleuse de fond. Et la création, 5 ans après la mort de son époux du prix Seligman, renvoie à ce souci de travailler sur le fond contre le racisme. Je dois dire que l'évolution de la situation dans notre pays, évolution un peu inquiétante, confirme à quel point l'intuition qu'elle a eue à ce moment était une intuition de combat et elle souligne l'intérêt que nous avons collectivement à continuer à soutenir ce combat. Cela accompagne de la continuité de ses engagements politiques, de ses engagements associatifs. Cela témoigne aussi de son attention au sort de la jeunesse et de ses alarmes face à l'escalade de la dégradation sociale et des discriminations qui se multiplient et les accompagnent. C'est comme je l'ai dit dans le cadre de cette fondation que j'ai rencontré Françoise pour la seconde et pour la première fois. À dire vrai, à mes yeux de relativement jeune ligueur, elle était l'image même de la Ligue telle que je l'avais découverte récemment. Âgée, mais sans âge, déterminée, limite un peu têtue, inébranlable sur ses convictions. Et à ses yeux, cela se voyait assez clairement, je représentais une sorte de saut temporel un peu incompréhensible, non dénué d'exotisme. Nous étions de longue date dans le même camp, mais pas dans le même corps d'armée, et notre seconde rencontre était somme toute un peu trop tardive pour que nous prenions totalement la dimension de ce qui pouvait nous réunir. Elle prit donc un soin gourmand à me rappeler d'emblée qu'elle n'avait pas été d'accord sur tout avec la LDH et singulièrement avec tel ou tel de ses responsables. À quoi j'ai répondu que moi-même j'avais beaucoup de difficultés à être d'accord sur tout avec la LDH et que quant au président et présidente, je n'en parlerai pas, mais n'en pensais pas moins. Et puis j'ai dû bafouiller que les relations les plus solides, somme toute, étaient justement celles qui savaient traverser les orages, quelques platitudes du même genre. Cela n'avait de toute façon, entre nous soit dit, pas grande importance, car Françoise avait dit ce qu'elle avait à dire, ajoutant à son propos qu'elle était ravie de voir chez elle, place des Invalides, un président de la LDH. J'aime à penser que ce « chez elle » avait valeur universelle et englobait notre histoire commune, nos engagements partagés et notre ligue à tous deux, soit une certaine vision de l'humanité, attentive à l'égale dignité des personnes, libre et fraternelle.